Et nous allons sans tarder passer aux questions de réponse. Comme d'habitude, je vous demande encore une fois de fermer vos téléphones ou de les mettre sur silencieux. Et à toutes les personnes qui vont prendre la parole, veuillez vous présenter ainsi que l'organe de presse que vous représentez. Nous allons prendre la première question en commençant sur la gauche. La dame? Il y a une dame... Faites-vous voir. Patricia. Non, c'est pas Patricia. La dame en blanc.
Merci, c'est Françoise Taléa pour le journal La Pensée. Ma question, je la pose au porte-parole civil. Monsieur le porte-parole, quelle est la réaction de la MONUSCO par rapport à l'arrestation le samedi 9 février 2013 par les FARDC à Uvira de M. Gustave Bagayamukwe, chef d'un nouveau groupe armé dénommé UFRC. Et il se trouve à présent.
Où il se trouve, je ne saurais le dire, mais comme vous le savez, les services de sécurité, ils ont un travail à faire. Je pense que c'est dans le cadre de leur fonction qu'ils ont arrêté M. Gustave. Ce que nous, au niveau de la MONUSCO, nous pouvons faire, c'est de nous assurer que l'intégrité physique de M. Gustave soit protégée et que la loi soit respectée et que la justice fasse son travail proprement. Deuxième question. Sur la gauche. Toujours sur la gauche. Vous levez la main là. S'il vous plaît, le micro, oui.
Monsieur le porte-parole, Robert Mouila pour le compte de Raga Télévision. Je m'adresse plutôt au porte-parole militaire. Lorsque nous suivons les activités des groupes armés, le RAI à Mutomboki, on le situe aussi bien au Nord Kivu, au Sud Kivu, dans le Maniema et même au Katanga. Quel est son mode opératoire? A-t-il un commandement bien identifié pour mettre toutes ces régions-là en difficulté? C'est ma première question. Ma seconde question, c'est toujours vers vous que je me tourne, c'est la situation dans le Nord Katanga. Qu'est-ce qui est fait présentement par vos forces pour essayer de protéger la population dans cette partie? Merci.
Merci donc pour votre question. La première question qui est liée au mode opératoire des Rahia Mutomboki, je m'en réfère d'abord à la définition du Rahia Mutomboki, qui veut dire tout simplement un peuple en colère. Et partant de là, tout le monde peut être en colère pour des raisons bien différentes. Et donc, sur ce, il faudra dire aussi qu'il y a beaucoup de groupes Rahia Mutomboki, comme vous l'avez dit, il y en a un peu partout aujourd'hui. Donc, ce sont des populations civiles, locales, qui s'organisent pour revendiquer quelque chose, mais qui le revendiquent avec les armes. Donc, qui aussi font beaucoup d'exactions sur les populations civiles. Donc, leur mode opératoire est très différent dans la mesure où, d'abord, il n'y a pas un commandement centralisé des Rahia Mutomboki. C'est de petits groupuscules qui évoluent, chacun ayant son agenda bien précis à mettre en œuvre. Donc, le mode opératoire du Rahia Mutomboki est assez difficile à saisir, assez difficile à cerner. Toujours est-il que ce que nous constatons sur le terrain, c'est qu'il y a comme une sorte d'expansion de ce mouvement un peu partout, aussi bien au Katanga qu'au Nord qu'au Sud Kivu. Donc voilà un peu pour la première question. Le mode opératoire est différent. Il tient compte de beaucoup de paramètres qui est lié aussi à l'organisation du groupe en lui-même. Deuxième réponse concernant justement le Katanga, particulièrement le nord-est du Katanga. Donc aujourd'hui la situation est beaucoup plus calme en termes de clash, en termes de combat avec les FRDC, mais toujours est-il que nous continuons à surveiller la situation. Mais il faut reconnaître, comme je l'ai dit la dernière fois, la MONUSCO n'a pas une présence effective dans cette zone qui est difficile d'accès d'abord, mais nous avons des observateurs militaires et des postes aussi bien à Manono qu'à Kalemi, et pas à Pueto, mais à Pueto il y a un déploiement FRDC qui n'est certes pas aussi consistant, mais qui est là et qui fait le travail avec la PNC. Donc pour le Katanga, nous pouvons dire tout simplement que la force de la MONUSCO mène de temps en temps des patrouilles aériennes, infiltre des troupes qui mènent des patrouilles sur le terrain et qui retournent. Donc voilà, globalement, pour votre question relative au nord du Katanga.
Merci. Nous prenons... oui. Une troisième question sur la gauche. Ensuite, nous allons à Goma.
Alain Mouzi pour Sango Malam Télévision. Monsieur le porte-parole militaire, la SEDEC compte déployer 4 000 hommes pour constituer cette force internationale neutre. Est-ce que croyez-vous que 4000 hommes suffisent pour pacifier cette partie de la RDC? Concernant la journée internationale de la radio, est-ce qu'il est dans les projets des Nations Unies de créer une chaîne de télévision, par exemple?
Concernant la deuxième question, je peux vous répondre tout de suite, c'est non. Ouais. Première question.
Merci. Donc, pour votre première question, les 4000 hommes qui vont être déployés à RDC, sont-ils suffisants ou pas? Je ne peux me prononcer là-dessus, mais je peux tout simplement vous dire que si c'est des forces bien entraînées, bien organisées et qui sont déployées correctement sur le terrain, avec l'appui de la MONUSCO, je pense que les choses pourront se faire de manière correcte.
Merci. Nous allons à Goma. Première question de Goma, s'il vous plaît. Goma, est-ce que vous nous entendez? Goma, on ne vous entend pas. Est-ce que vous nous entendez?
Oui. Oui.
Ok, allez-y, on vous entend maintenant.
Aline Ingwe pour le compte de Top Congo FM. J'ai deux questions. La première s'adresse au porte-parole et la deuxième au responsable humanitaire. La SADC a décidé d'envoyer 4000 hommes. D'ailleurs, il y a déjà un groupe ici sur Taran. Qu'en est-il de la brigade de 2500 hommes que l'ONU devrait envoyer sur Taran, dont le secrétaire général a annoncé que le texte était déjà prêt pour être signé? Cette brigade a-t-elle encore de l'avenir? L'ONU va-t-elle financer la force de la SADC comme les Africains l'ont demandé? Quels seront les rapports de collaboration entre la force de la SADC et la MONUSCO ici sur terrain? Aux responsables humanitaires, la plupart des déplacés de guerre sont dans des familles d'accueil, surtout celles qui sont dans des zones beaucoup plus reculées, et ces familles sont elles-mêmes sinistrées. Quels sont les mécanismes concrets déployés par l'ONU pour les assister? Merci.
Merci Goma. Concernant votre première question, je passe la parole au porte-parole militaire.
Oui, merci. Donc, je pense que votre préoccupation est tout à fait légitime parce que la confusion s'installe progressivement dans la tête de tout un chacun. Effectivement, comme vous le savez, il y avait d'abord une première initiative de la Conférence internationale des Grands Lacs relative au déploiement d'une force d'intervention neutre. Ensuite, au mois de novembre, la SADC s'est réunie et a proposé le déploiement d'une force de 4000 hommes qui sera prélevée à partir de sa brigade en attente. Parce que, comme vous le savez, la SADC a une brigade en attente. Alors, ensuite, il y a eu une troisième proposition qui venait des Nations Unies, qui est relative au déploiement de 2500 hommes qui seront intégrés dans la force de la MONUSCO, sous le commandement de la MONUSCO, avec bien entendu un mandat qui pourrait être différent, tout en renforçant éventuellement ou en modifiant le mandat présent de la MONUSCO. Donc voilà pour ce qui a été les différentes initiatives ou propositions qui ont été posées et qui sont présentement en cours. Mais comme vous le savez, les négociations continuent, le format définitif de cette force n'est pas encore retenu et les discussions se poursuivent pour que cette force puisse être déployée le plus rapidement possible. Mais toujours est-il que le jour où cette force sera déployée en RDC, elle travaillera forcément en étroite collaboration avec la force de la MONUSCO qui est présentement sur le terrain, qui a acquis l'expérience, qui a les moyens logistiques, un certain nombre de paramètres positifs qui pourraient mettre mis à contribution de cette force qui aura pour but de traquer les groupes rebelles et les forces négatives qui sont à l'est de la RDC. Donc pour le moment, c'est ce que je peux dire sur cette force-là.
Merci. Sylvestre?
Oui, vous avez tout à fait raison de dire que les familles d'accueil sont sinistrées. Il y a énormément de déplacés en RDC. Il y en a environ 2 700 000 selon les dernières statistiques données par les commissions mouvement de population. Et la majorité de ces déplacés vivent dans des familles d'accueil. Il y a quelque temps, on intervenait par rapport au statut des personnes, on intervenait uniquement par exemple pour les personnes déplacées, mais depuis un certain temps, la communauté humanitaire a changé son approche et intervient désormais en fonction de la vulnérabilité des personnes. C'est ainsi que, même tout à l'heure, quand je parlais des distributions qu'est en train de faire le Programme alimentaire mondial, je vous ai dit qu'on assistait aussi bien les personnes déplacées que les communautés d'accueil, parce que justement nous sommes très conscients que ces familles qui accueillent ces personnes déplacées subissent un poids qui les rend encore plus vulnérables, et pour leur permettre de mieux supporter cette charge, quand on intervient désormais aussi en faveur des familles d'accueil qui bénéficient des distributions que l'on fait en faveur des zones qui sont ciblées pour les interventions.
Merci. Une deuxième question de Goma.
Oui, c'est ici Famagourou de Radio Kapi. Je m'excuse de revenir encore avec la situation de l'arrivée de la force neutre. Donc, à en croire l'évolution de cette situation, vous le savez comme nous, il y a eu une dernière réunion de la SADC à Maputo. J'aimerais savoir, de 1, est-ce que la MONUSCO adhère à l'idée de Maputo? De 2, le secrétaire d'État américain Johnny Carson a, dans une conférence dernièrement, soutenu l'idée d'une solution internationale pour résoudre le conflit congolais. Il a exhorté le Rwanda, la RDC et l'Ouganda à signer et mettre en application l'accord cadre des Nations Unies. Que pense la MONUSCO par rapport à cette position des États-Unis? Merci.
Ben, d'abord, et je le répète, en ce qui concerne je dirais tout ce business autour de la force internationale neutre, ce n'est pas la MONUSCO qui décide. C'est au niveau du département de maintien de la paix à New York avec le secrétaire général. C'est là-bas que les négociations se font. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, c'était le secrétaire général lui-même qui était à Addis Abeba à la réunion de l'Union africaine. Par conséquent, la MONUSCO n'a rien à penser, la MONUSCO n'a pas un état d'âme là-dessus. Si une nouvelle résolution venait à être votée, que le mandat était changé, la MONUSCO aura simplement le rôle d'appliquer ce mandat-là. Donc la mission ne pense pas dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, généralement, ce que l'on peut vous dire, c'est que la MONUSCO est pour tout ce qui peut concourir à ramener une paix durable en République démocratique du Congo. Tous les efforts qui sont faits dans ce sens, bien entendu, la MONUSCO ne peut que être en faveur. En ce qui concerne la déclaration de M. Johnny Carson, encore une fois, c'est le représentant d'un gouvernement étranger qui a parlé, de surcroît membre permanent du Conseil de sécurité, et c'est encore au niveau de New York que cela doit se décider. Une dernière question de Goma avant de revenir à Kinshasa.
Bonjour, c'est Simone Schlindlein de Presse écrite en Allemagne. J'ai la question concrètement sur le déploiement de drones ici à Congo, et dans quel mandat et qui va partager les informations que les drones vont recevoir. Merci.
Oui, le principe du déploiement de drones, donc des véhicules de surveillance aérienne, a été accepté au niveau des Nations Unies. Encore une fois, c'est au niveau de New York que ce dossier se gère. C'est le département de maintien de la paix qui gère ce dossier, qui devra donc trouver non seulement les fonds, mais aussi le pays qui va accepter de louer cet avion à la MONUSCO pour ce travail-là. Nous revenons à Kinshasa. Nous prenons première question sur ma droite.
Patrick Mbanga pour l'expression. Je pose mes questions au colonel. Mon colonel, plusieurs groupes de mitins sont en train de naître dans le Kivu. Et ce qui est grave, c'est dans des territoires occupés par les M23. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est juste des souches supplémentaires du M23? Et deuxième question, quand la ville de Goma était tombée à l'époque au mai du M23, vous avez déclaré en disant que avant que Goma puisse être mise à sac par M23, vous êtes retrouvé devant une force terrible. Et aujourd'hui, les Nations Unies va envoyer une force neutre. Est-ce qu'il y a un point central entre la force neutre et la MONUSCO pour essayer de riposter tout le mouvement négatif?
Je dois avouer que la deuxième question est très compliquée. Je ne la comprends pas très bien, mais je vais m'efforcer d'y répondre. Donc, d'abord, je dois corriger que nous n'avons pas dit ici que la puissance, comment ça s'appelle, on était en présence d'une force terrible. Non, je pense qu'il faut qu'on revienne à des proportions quand même assez acceptables. Effectivement, je ne vais pas revenir sur la chute de Goma, parce que nous avons tous été traumatisés, bien sûr, par cela. Mais je veux tout simplement dire que ce qui avait été constaté lors de l'attaque ou de l'offensive lancée par les M23 contre les FARDC au niveau de Kibumba et de Kibati, nous avions observé une puissance de feu qui était quand même inhabituelle ou alors anormale. Donc ça, c'est pour la précision. Maintenant que cette force internationale neutre va se déployer à l'est de la République démocratique du Congo, comment est-ce qu'elle va peut-être collaborer avec la MONUSCO? Nous avons dit tantôt que cette force avait... Il y a des possibilités que cette force soit intégrée à la MONUSCO. Donc dans ce cas, le problème de collaboration ne se poserait pas. Quant à la... À ce que vous venez de, ce que nous avons tous noté, c'est que nous avons vu une résurgence, ou en tout cas une apparition de plusieurs groupes armés présentement, justement à l'annonce de déploiement de cette force-là. Maintenant, ça peut avoir des, ça peut être dû à des objectifs bien précis qui doivent être poursuivis, parce que où on se coalise pour mieux négocier demain avec le gouvernement pour éventuellement une intégration, où on se coalise pour éventuellement faire face au déploiement d'une force internationale neutre. Maintenant, qu'est-ce qui motive tout cela? Ça reste vraiment dans le domaine du secret des groupes armés. Je ne pourrai pas m'avancer là-dessus, mais c'est effectivement quelque chose que nous observons et que nous continuons à surveiller de manière étroite au niveau de la MONUSCO pour éventuellement contrecarrer toute action susceptible de causer des préjudices aux populations civiles.
Merci. Chers collègues, je pense que si vous ne pouvez pas fermer votre téléphone quand on vous le demande, nous allons demander à la sécurité à partir de la semaine prochaine que lorsque vous allez entrer, déposez votre téléphone à la sécurité et vous prendrez ça quand vous allez sortir. Je pense que cela réglera le problème pour tout le monde. Nous prenons une dernière question sur la droite avant de passer sur la gauche. Oui, devant vous. Allez-y, donnez le micro. Oui. Oui.
Merci, c'est... Monsieur Gianni Kabongo de l'agence Univers Info, je voulais savoir si les informations que nous avons reçues de nos correspondants basés à Goma faisant état de la présence des éléments du M23 autour de la ville de Goma, et certains d'entre eux sont déjà infiltrés dans la ville de Goma. Et je voulais avoir des informations si la MONUSCO sont au courant de cette situation sécuritaire du M23.
Mon colonel,
évidemment, nous savons tous que le M23 est autour de Goma. Ça veut dire au niveau des hauteurs de Munigi, donc à 4 km de Goma. Maintenant, dire formellement qu'il y a des éléments du M23 dans Goma, je ne saurais m'aventurer sur cette piste-là parce que je ne peux pas le certifier.
Merci. Nous revenons sur la droite, sur la gauche. Je m'assume à gauche. Levez la main. Oui, allez-y.
Merci pour la question. C'est Sophien Katumba pour le compte du journal Le Peuple. J'ai une préoccupation de curiosité à adresser à M. Moulumbaï. porte-parole de la MONUSCO. La MONUSCO vient de sortir de l'ordinaire et mérite un coup de chapeau de la presse, moyennant sa nouvelle technologie de la conférence vidéo en direct de Goma. Pourrions-nous savoir combien vous a valu le coût chiffré en espèces? Je vous remercie.
Vous voulez savoir le coût de cette opération?
Oui, je vous remercie.
Ah ben c'est c'est une bonne question. Je pense que c'est une bonne question parce que l'effort que nous faisons pour vous apporter l'information coûte de l'argent. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Et je pense que c'est une bonne question. D'abord, vous devez comprendre que nous sommes en train de faire un effort tous les jours pour vous apporter plus d'informations, mais qu'il y a un coût derrière tout cela. Je ne pourrais pas répondre à cette question immédiatement parce que ce sont nos collègues qui s'occupent de l'administration qui sont responsables de ça. Peut-être je devrais leur poser la question et je reviendrai vers vous. Une autre question? La chaîne Nouvelle.
Merci, c'est Steve Wemi pour la chaîne Nouvelle. J'ai deux petites questions au colonel Basse. La première, monsieur le colonel, est-ce que le poste frontalier de Bunagana est toujours fermé? C'est ça ma première question. La seconde question, je la pose, c'est, donc je reviens à mon précédent Patrick. Les groupes rebelles dans l'est du pays, qui leur fournissent maintenant les munitions? Merci.
Bon. Pour la première question, je pense que vous pourrez avoir des informations beaucoup plus sûres auprès de la douane congolaise. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous savons que Bunagana avait été fermé depuis belle lurette. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu connaissance de sa réouverture. Quant à la deuxième question, je pense que je préfère la laisser en suspens parce que vraiment il serait prétentieux de ma part de dire qui arme ou qui fournit logistiquement ou en munitions les groupes armés pour qu'ils continuent à faire des exactions. Je ne saurais répondre à cette question-là, malheureusement.
Nous partons à Goma. Nous allons prendre deux questions de Goma.
Benoît Kambere Lusumba. C'est mon nom, du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs. Je voudrais m'adresser au porte-parole, M. Mounoubaï. Des informations en provenance de Kampala font état de l'enlisement des travaux entre le gouvernement congolais et le M23, que d'ailleurs les Nations Unies avaient considéré comme force négative. Quand on sait l'implication que l'échec de ces travaux a sur la région du Nord Kivu, qui a été si bien décrite par le colonel Basse, qu'est-ce que la MONUSCO, qui, à certaines nouvelles, serait observatrice à Kampala, préconise pour prévenir l'échec de ces travaux?
D'abord, votre information en ce qui concerne la présence de la MONUSCO ou des Nations, ce n'est pas correct. Nous n'avons pas un statut spécial, ni même, nous ne sommes pas observateurs à cette rencontre. Donc, comme vous, nous attendons de voir ce qui sortira de cette discussion de Kampala, mais comme vous et comme le peuple congolais, nous espérons que quelque chose de positif sortira de Kampala afin d'alléger, tant peu soit-il, les difficultés et la misère que vit la population du Nord Kivu. Une deuxième question de Goma.
Je suis Olivier Baraka pour le compte de Mishapi Voice TV. À l'occasion de la journée internationale consacrée aux enfants soldats, plusieurs ONG de défense et de promotion des droits des enfants ont souligné que plusieurs groupes armés se consacrent beaucoup plus à l'enrôlement des enfants, non seulement au Nord Kivu, mais dans le reste du pays. Je voudrais en savoir quel est le point de vue, quelle est la lecture que fait la MONUSCO, quel est l'état du lieu établi par la MONUSCO. Je reviens aussi du Maniema où le Raia Mutomboki s'affronte terriblement avec les forces armées congolaises, notamment dans les territoires de Punia Kasese exactement. Nous avons interrogé plusieurs populations sur place. La situation humanitaire est catastrophique. Merlin, qui intervenait, s'est retiré à Lubutu. Il y a absence des humanitaires. Qu'est-ce qu'on fait la communauté humanitaire pour pallier au défi d'assistance? Merci beaucoup.
Concernant la première question, votre information est correcte. Les groupes armés n'ont pas cessé d'enrôler en leur sein des enfants, ce qui est contraire aux lois internationales, parce que les enfants ne doivent pas être enrôlés ni être utilisés par les groupes armés. Les différents rapports qui ont été publiés confirment cela. Quant à ce qui concerne la deuxième question, je passe la parole à mon collègue de humanitaire.
Concernant la situation sur Pounia et par rapport au retrait de Merlin qui est le partenaire opérationnel du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, selon les informations que nous avons reçues de l'UNICEF hier, Merlin est sur place et continue à apporter un soutien au centre de santé, notamment avec, comme je l'ai d'ailleurs dit tout à l'heure, un financement de l'Agence britannique pour le développement international. Mais sur cette question de Pounia, je donne la parole à ma collègue Fabienne Pompé-Dupin qui va donner un peu plus d'informations là-dessus.
Dans tel état qu'il faut 2 à 3 heures et parfois même laisser les voitures aller à pied parce que on ne peut pas passer. Il y a 2 camions à Pounia qui sont dans un état absolument terrible, qui sont les seuls disponibles pour transporter la nourriture. Je vous invite à venir visiter la page Facebook PAM RDC, il y a des photos. Vous serez assez surpris de voir dans quelles conditions on travaille. Mais en tout cas, notre volonté est d'aller à Pounia et d'apporter de l'aide à tous les gens qui en ont besoin, en sachant qu'effectivement, l'aide n'arrive pas aussi rapidement qu'elle le devrait, compte tenu de tous ces défis logistiques.
Merci. Nous prenons une question, peut-être vers 2 questions vers le fond, à droite.
C'est Espérant Daniel Kamboulou de Digital Congo. La question, c'est par rapport aux redditions des éléments rebelles. La semaine passée, on avait annoncé que quelques éléments M23 s'étaient rendus aux forces loyalistes. Où ils sont et quand est-ce qu'on va les présenter au public? Ça, c'est la première question. La deuxième, je voudrais savoir, lorsque les négociations ont commencé à Kampala, il avait été décidé que les deux parties, c'est-à-dire les FARDC et le mouvement rebelle M23, puissent garder leur position dans laquelle ils se trouvaient. Mais il s'annonce peu à peu que c'est le M23 qui fait toujours des menaces aux FARDC, qui continue à occuper progressivement. Pourtant, c'était une partie qui était censée être gardée ou sous sa surveillance de la MONUSCO. Que fait la MONUSCO pour empêcher à ce que la M23 ne puisse pas progresser et continuer à violer la zone qui était considérée neutre?
Concernant la première partie de votre question, ces éléments de M23 ne sont pas des prisonniers de guerre et ils n'ont pas été capturés lors de combats. Ce sont des personnes qui se sont rendues volontairement, parce que le DDR est volontaire. Il n'est pas question de les exhiber une fois qu'ils se sont rendus. Donc, n'attendez pas à ce qu'on les exhibe. Néanmoins, les autorités de ce pays, nous les tenons informés du nombre de personnes qui se rendent, de la façon dont nous les traitons, et nous les traitons en coordination avec les autorités de ce pays. Mon colonel?
Oui, merci. Donc, que fait la MONUSCO pour prévenir éventuellement une tentative du M23? C'est bien ça votre question? Oui, évidemment. S'il faut revenir un peu à ce qui avait été décidé à Kampala par les 3 chefs d'État, c'est juste pour rappeler qu'effectivement, le M23 devait se replier à 20 km de Goma, ce qui n'a pas été fait, qui a été constaté. Et comme vous le savez aussi, il y a un organisme qui s'appelle le mécanisme conjoint de vérification qui est sur place, qui a été mis en place par les chefs d'État de la Conférence internationale des Grands Lacs pour monitorer tout ça, qui est au courant que le M23 est à peu près à 4 km de Goma. Ça, ce sont des faits qui sont là depuis le mois de novembre, depuis que le M23 a quitté Goma, on est en 2013, on est en février 2013, donc depuis novembre. Maintenant, que va faire la MONUSCO? Je pense que vous posez parfois la question de façon un peu à l'envers. Je pense que s'il est clair, si on a tous compris que le mandat de la MONUSCO, c'est de protéger certes les populations civiles, mais aussi d'appuyer les FRDC, je pense que l'initiative de tout ça, la responsabilité de la défense du territoire congolais, incombe d'abord aux FRDC. Donc, toujours vouloir mettre la responsabilité sur nos épaules, nous acceptons de les prendre, nous acceptons aussi de faire tout ce qui est à notre pouvoir avec les moyens que nous avons pour assurer, pour exécuter notre mandat. Mais je pense que la question serait plus correcte si vous me posez la question en ces termes. Que fait le FRDC pour que cette situation n'arrive pas? Effectivement, il y avait une zone tampon qui avait été initialement décidée par les chef d'État, et cette zone tampon devrait être sous la responsabilité de la MONUSCO. Après que le chef d'État ait initié un déploiement d'une compagnie M23 à l'aéroport, une compagnie FRDC à l'aéroport et une autre compagnie de la Force internationale neutre à l'aéroport. Tout ce mécanisme n'a pas été mis en œuvre, la zone tampon n'existant pas, parce que le M23 n'est pas allé à 20 km et que la responsabilité de la MONUSCO ne peut pas être engagée parce qu'il n'y a pas de zone tampon. Donc, c'est juste pour vous clarifier que la MONUSCO a la responsabilité d'une zone tampon qui n'existe pas encore. Mais de notre côté, nous prenons en compte la situation sécuritaire à Goma parce que vous savez qu'il n'y a pas suffisamment de troupes FRDC à Goma. Nous nous occupons des sites de déplacés, nous nous occupons de tout ce qui est installation sensible, nous nous occupons de l'aéroport qui a une incidence économique forte dans la région. Donc, nous sommes là, nous exécutons notre mandat et essayons de protéger les populations civiles au mieux.
Voilà, merci beaucoup. Nous allons clôturer notre rencontre de ce jour sur ces mots. Merci à vous tous qui avez fait le déplacement. Merci à nos collègues de Goma. Rendez-vous la semaine prochaine.